Occitanie, terre d'extase. Extase, parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art, d'un air de musique, d'un visage, que nous sommes captivés, fascinés, hors de nous-mêmes. Nous allons nous demander, cette fois-ci, que sont les siècles pour la roche ? Et cette fois-ci, c'est du Minervois héroltais que nous vient la fascination. Au pied de la montagne de la Serre, dans un écrin de pin enveloppé des parfums de la garrigue, et plus précisément dans les environs du village de Cesseras, à proximité duquel nous allons nous immerger ensemble dans l'histoire, sur deux sites exceptionnels, distants l'un de l'autre, de seulement quelques centaines de mètres. De trésors naturels en trésors architecturaux et archéologiques, le parcours d'aujourd'hui est là pour vous offrir une conjonction de découvertes historiques et musicales en pays aux doigts. Le premier joyau est une chapelle, œuvre de l'architecture romane du XIe siècle, connue sous le nom de Saint-Germain de Cesseras. Nous sommes ici au tout début de cette formidable vague architecturale qui nous a laissé tant de trésors. Nous sommes accompagnés par l'écrivain et historien Christian Pastre, dont nous évoquerons en fin d'émission les tableaux romanesques de la vie néolithique. Nous nous arrêtons un instant devant la façade épurée de l'édifice. Toujours cette humilité romane, cette grâce et cette douceur des lignes qui ne cherchent pas la grandeur, plutôt le recueillement dans la simplicité. Serti d'une magnifique végétation, le bâti ne peut que resplendir encore davantage. Un arc à claveaux polychromes surmonte le portail de la chapelle. Polychrome, c'est-à-dire que les bâtisseurs ont joué des teintes de pierre différentes. Les claveaux alternent le noir, l'ocre foncé, le blanc, le brun, l'ocre clair. Certaines roches volcaniques proviennent de la région d'Agde. Délicatesse des nuances, quête du pur et du sobre. Pour Bernard de Clairvaux, grand réformateur de l'Église catholique, né en Bourgogne à la fin du XIe siècle, la sobriété ornementale des églises et des cloîtres est un impératif pour au moins deux raisons. L'économie et le recueillement. Écoutons le raisonnement qu'il tient à Guillaume, abbé de Saint-Thierry. Mais que signifient dans vos cloîtres, là où les religieux font leur lecture, ces monstres ridicules, ces horribles beautés et ces belles horreurs? À quoi bon dans ces endroits, ces singes immondes, ces lions féroces, ces centaures chimériques, ces monstres demi-hommes, ces tigres bariolés, ces soldats qui combattent et ces chasseurs qui donnent du corps? Ici, on voit une seule tête pour plusieurs corps ou un seul corps pour plusieurs têtes. Là, c'est un quadrupède ayant une queue de serpent, et plus loin, c'est un poisson avec une tête de quadrupède. Tantôt, on voit un monstre qui est cheval par devant et chèvre par derrière, ou qui a la tête d'un animal à cornes et le derrière d'un cheval. Enfin, le nombre de ces représentations est si grand et la diversité si charmante et si variée qu'on préfère regarder ces marbres que lire dans les manuscrits et passer le jour à les admirer plutôt qu'à méditer la loi de Dieu, grand Dieu, si on n'a pas honte de pareille frivolité. On devrait au moins regretter ce qu'elle coûte. Nous entrons dans la fraîche pénombre de l'édifice. Un homme entre deux âges y est assis, au premier rang, courbé sur un luth, dont les sonorités forment un heureux prélude à la visite du lieu. Il passe ses vacances d'automne à se délecter de l'acoustique de la chapelle. Les accords grêles du luth se font caverneux entre les blocs de basalte. L'œil, maintenant accoutumé à la demi-obscurité, découvre la beauté de la nef. La chapelle Saint-Germain de Cesras a d'ailleurs bien failli disparaître sous les outrages du temps, plus ou moins abandonnée pendant un siècle et demi. Elle doit sa santé architecturale actuelle à la restauration progressive dont elle a bénéficié de 1948 à 1954. Dans ce premier art roman lombard, les pierres ne sont pas taillées juste et caries, précise Christian Pastre. Ces pierres, savamment disposées, confèrent à l'ensemble son caractère cru, sa minéralité brute et pourtant délicate. Le tailleur de pierre n'est pas un coupeur de blocs. Il sait extraire de la pierre la beauté des formes et des figures humaines ou animales. Son art consiste à insuffler de la vie à la roche, à faire parler le minéral. Il entend la manière de s'adresser à ses congénères, à rendre vivante leur croyance, à la sculpter pour eux. Son art s'appuie sur une fine connaissance de la géométrie, de la matière. L'orbe patient du soleil l'accompagne du petit matin au crépuscule. Sa loge s'adosse au mur déjà élevé. Il s'y abrite et range ses outils, pics, taillants, marteaux, gradines et autres ciseaux. Sa corporation songe à s'ériger en guilde, comme le font en cette fin de XIe siècle d'autres artisans. Dehors, dans la pinède, les cigales s'en donnent à cœur joie. La magnificence de l'art roman tient en outre aux courbes harmonieuses du chevet. Le chevet, cette tête de la nef tournée généralement vers l'est, si le chevet de Saint-Germain est qualifié de lombard, c'est qu'il est hérité des architectes du nord de l'Italie du haut Moyen-Âge. Tout dans cet édifice nous fait remonter à ses origines, peu après l'an 1000. Les moellons de ses murs conservent-ils encore quelque chose des célébrations qu'il abritait? Où est donc l'élan vocal des fidèles qui le fréquentaient? En cette période, pensée comme une fin du monde, qu'avait-il en tête? Comment faisait-il face à la violence qui ravageait notamment le Languedoc à l'époque? L'insécurité féodale jetait un jour mauvais sur la vie quotidienne. Pacifier le monde était donc à l'ordre du jour. Christian Pastre nous le rappelle, l'Église venait de prendre deux mesures visant à endiguer cette violence. C'était d'une part la paix de Dieu qui vise à pacifier le monde chrétien, puis, au début du XIe siècle, une autre disposition voit le jour qui complète la paix de Dieu. C'est la trêve de Dieu qui, cette fois, veut dissuader de combattre pendant certains jours. La transgression de ces mesures peut avoir l'excommunication pour conséquence. À cette même époque, une partie des chrétiens cherche à revenir aux fondamentaux de l'Église. La réforme grégorienne bat son plein. Les gens repartent dans les vallées pour retrouver la vraie foi et construire des abbayes cisterciennes. De la fin du XIe siècle à la fin du XVIIe siècle, elles seront au nombre de 742 en Europe. L'enchevêtrement des seigneuries féodales engendre de nombreux conflits. Morcelé, le Midi est sous la coupe du roi d'Aragon, du comte de Barcelone et du comte de Toulouse. Le vassal de l'un est le suzerain de l'autre et vice-versa. Pas facile de s'y retrouver ni de ménager les susceptibilités. Cela n'empêche pas la construction de Saint-Germain de la Serre, que l'on nommera plus tard Saint-Germain de Cesras. Ce dernier toponyme se rapporte, semble-t-il, à la Cesse, affluent de l'Aude. À propos de la fin du monde, tel qu'il est vécu par les gens de cette époque, on considère que l'épisode climatique durant lequel a lieu l'édification de la chapelle a été favorable au développement des activités humaines et, en premier lieu, de l'agriculture. Il en va tout autrement de la paix sociale. Dans son livre sur l'an 1000, Georges Duby intitule l'un des chapitres « Le déchaînement du mal ». Cela vaut pour le XIe siècle. Duby évoque un peuple terrorisé par l'imminence de la fin du monde. On guette l'apparition du moindre signe dans le ciel, éclipse, comète, combat d'étoiles. On fabule aussi à tout va. Duby le note à propos de certaines annales rédigées plus tard. Écoutons ce qu'elle raconte. En l'an 1000, de violents tremblements de terre ont ébranlé l'Europe entière, détruisant partout des édifices solides et magnifiques. Cette même année, apparut dans le ciel une horrible comète. Beaucoup qui la virent crurent que c'était l'annonce du dernier jour. La chapelle, malgré ce qu'elle émane de douceur mystique, peut-elle contrebalancer l'épaisseur tragique de la vie quotidienne en Languedoc en cette période? Question. Quel que soit le contexte sociopolitique, les architectes et les artisans parviennent à bâtir un lieu de culte aussi apte au recueillement d'où émane une idée de paix et d'amour du beau. Autre réalité de son XIe siècle, l'hérésie et les luttes incessantes que l'Église engage contre elle. On le sait, quand on parle de cathare, on use d'une facilité de langage. S'agissant de ce que l'on nomme parfois l'hérésie cathare, Christian Pastre rectifie, ce n'était pas une hérésie, plutôt une dissidence. Mais une question demeure, pourquoi cette dissidence a-t-elle été aussi souvent persécutée? Ici, à Saint-Germain de Cesseras, devant cette paisible chapelle, on se le demande. De nos jours, la pierre de cette envoûtante chapelle forme une magnifique chambre d'écho au musical, une série de concerts qui chaque été portent son nom. Vous allez donc entendre maintenant un extrait du concert donné ici à Saint-Germain de Cesseras. Et il s'agit de Frescobaldi, c'est Laura Spira par l'ensemble Clematis avec Mariana Flores, Leonardo Garcia à l'Arcon. Thank you. Le moment est venu de remonter encore beaucoup plus loin dans le temps pour nous rendre tout à côté de Cesseras, sur le site des Fades, sur la commune de Pépieux, à un jet de silex du château viticole Massamier-la-Mignarde. Ce bond de 5 à 6 000 ans dans le passé nous conduit sur un site archéologique fascinant, inventé par Jean Guilaine, François Briouat et Jacques Coularoux. Leurs travaux ont permis de faire réapparaître le dolmen des Fades, désormais connu comme la plus grande tombe dolménique du sud de la France. Celle-ci a été construite voici 5500 ans pour servir de tombe collective, et cela pendant un millénaire, estime Jean Guilaine, professeur émérite au Collège de France. Cette période est celle des grandes mutations culturelles et sociales. Des méthodes agraires venues du Moyen-Orient ont atteint le pourtour méditerranéen. L'agriculture entraîne une sédentarisation des peuples. Le chasseur-cueilleur nomade devient paysan enraciné dans un paysage qu'il va transformer en l'exploitant. Cet impressionnant dolmen des Fades, ou dolmen des Fées, suscite de l'émotion, tant son usage et l'idée de ceux qui l'ont fréquenté se trouvent, pour ainsi dire, encore inscrits dans la pierre. De forme allongée, au sommet d'un large tumulus circulaire, le dolmen s'ouvre sur un long couloir d'accès que marquent de part et d'autre de hautes dalles, puis vient une première chambre mortuaire où l'on déposait les morts et leurs objets personnels. L'émotion vient ici devant l'entrée circulaire, sorte d'étranglement matérialisant le passage de la vie à la mort. Cette énorme pierre que l'archéologue nommé Dalle Hublot évoque un gigantesque col d'utérus qui place en vis-à-vis la naissance et la mort. Une seconde chambre lui succède, elle-même également accessible par une dalle hublot, sensiblement identique à la première. Cet édifice de la fin de l'âge de pierre poli ou néolithique présente un caractère organique, matriciel, une limpide symbolique. Des témoignages matériels et personnels jonchaient les strates de la fouille pratiquée ici. Parures, pointes de flèches, poignards et poteries, pour ne citer que les plus nombreux. Des armes révèlent, selon Jean Guilaine, une idéologie du mal armé. Le passage civilisationnel du cueilleur au paysan induit une certaine individualisation et davantage d'inégalité. Ce que l'on décèle en étudiant le mobilier déposé dans la tombe, les dominants de l'époque se font enterrer avec les marques de leur pouvoir social, nous apprend encore Jean Guilaine. Des marqueurs s'appliquent également au codage du genre sur les statues menhirs. Le masculin porte les armes, le féminin montre poitrine et parure. Malgré toute notre attention tendue sur le site, malgré l'appel insistant adressé à notre imaginaire pour qu'il nous représente ce qu'a pu être la vie des êtres du néolithique, et surtout malgré la formidable production scientifique des archéologues, nous peinons à faire venir à notre conscience les visages, les activités et l'animation de l'espace de vie des habitants proto-historiques du lieu. Parmi les hypothèses sur ce que peut la littérature pour l'histoire, nous trouvons heureusement le livre de l'historien et romancier Christian Pastre. Son récit intitulé « Matin du monde » convie le lecteur à partager la vie et la spiritualité d'une famille d'agriculteurs avec ses joies et ses drames. Le titre indéfini de ce roman en annonce parfaitement la teneur. Tant de matins en des lieux innombrables ont fait et défait ce monde. Le tragique y est déjà l'une des circonstances de la vie sur Terre. C'est l'expression d'une volonté qui dépasse celle des acteurs de ces matins du monde, pour qui bonheur et malheur forment le don du grand tout auquel chacun entend s'unir. En tant que sujet romanesque, la préhistoire demeure originale parce que peu traitée et considérée par les auteurs comme assez risquée, qu'ils soient préhistoriens ou romanciers. C'est ce que pose dans sa préface au livre de Pastre l'éminent archéologue Jean Guilaine, un professeur au Collège de France, spécialiste de la préhistoire récente et de la protohistoire. La crainte de l'anachronisme peut en dissuader plus d'un. Quelques auteurs se sont pourtant distingués dans ce genre passionnant, telle l'écrivaine américaine Jean M. Howell dans une saga en 6 volumes intitulée « Les enfants de la Terre ». Ce même Jean Guilaine l'écrit tout net « Christian Pastre s'est joué des obstacles. Il connaît parfaitement la période qu'il évoque, celle des villageois, d'un néolithique avancé. » Le lecteur suivra en confiance les pas de l'auteur, remontera le temps avec lui jusqu'à l'aube de l'agriculture et du pastoralisme. Jean Guilaine l'affirme, rien ne manque à ces tableaux de vie néolithique. La vie, l'amour, la maladie, le spirituel, la guerre, tout y est. La philosophie aussi, et avec elle, le serment de lutter contre la tentation du doute et de l'orgueil. Sous les yeux du lecteur, l'auteur diapre cette vue d'ensemble d'exquises paraphrases pour désigner la mer et le soleil, telles que ces contrées lointaines où l'eau s'étend sans limite et l'astre du jour. En cet âge de la pierre polie, la simplicité s'accorde à un troublant réalisme. Très épuré, la langue de ce récit bannit par avance tout ce qui pourrait ressembler à la complexité de nos sociétés modernes. On en est encore au royaume de l'univoque, du pur et de l'innocence. Pourtant, l'ignorance et l'incompréhension sévissent déjà en fléau consubstantiel d'une société qui n'en finit pas de naître. Des pulsions destructrices s'infiltrent et souilleront peu à peu le flot civilisationnel. On voit avec Christian Pastre que l'état de nature n'est pas sans loi ni droit, comme nous l'a appris John Locke. Il est régi par le droit de nature. Nombre restreint de personnages du roman amplifie l'impression de vide et de solitude qui caractérise à nos yeux l'espace préhistorique. Christian Pastre nous fait vivre avec beaucoup de sensibilité l'existence quotidienne d'une famille au sein d'une petite communauté dont on compte les membres sur les doigts d'une seule main. Les joies y abondent, les malheurs aussi. Si le ton de ce livre nous captive dès les premières pages, c'est qu'il dit bien et sans pathos ce que sont les sentiments collectifs qui ont cours depuis des millénaires, indépendamment du contexte historique et socio-géographique. La tranquille éloquence de ces matins du monde nous entretient du stade où aurait pu demeurer notre esprit collectif et individuel. Cette fiction n'est pas seulement historique, gageons qu'elle renferme aussi quelques ferments d'un avenir à repenser. Dans les extraits qui suivent, nous faisons connaissance avec les membres de la famille, personnages principaux du récit. Ce sont la mère, Marna, Astor, le père, Padan, le vieux, l'aïeul, et Pistor, le fils. Un essaim de maisons basses s'étirait dans la lumière incertaine du petit matin. Des maisons tout en longueur, aux extrémités arrondies comme des ventres de femmes, pas un seul angle à vif. Les murs en pierre sèche étaient dépourvus d'arêtes susceptibles de déchirer les vents. Des maisons accordées à la rondeur du monde. Le bébé de Marna et d'Astor, encore englué de sommeil, se serrait contre le sein de sa mère. Marna le repoussa doucement contre son flanc et s'assit sur son séant. Sans un mot, elle alluma le feu avec un fagot de bois préparé la veille. Elle mit à cuire un gruau de farine et d'eau dans une petite marmite en terre, sur un lit de galets chauffé par les flammes. Puis, elle plongea délicatement sa main sous sa robe grossière et en sortit un sein gorgé de lait contre lequel elle pressa le visage joufflu de sa dernière née. Une odeur de farine s'élevait au-dessus des parcelles cultivées en blé. Sous l'effet d'une brise à peine perceptible née d'un soupir de la montagne, les barbes des épis se frottaient en crissant dans l'air léger. Leur étendue dorée se mouvait lentement. L'aube colorait de bleu la place de l'arbre sacré où les villageois s'affairaient. Certains la traversaient, munis de leurs faucilles à larmes de pierre, et se dirigeaient vers leurs champs. Sur le seuil de la maison, Astor attendait, en s'impatientant que Marna ait éveillé Pistor. Padan, le vieux, dépliait avec peine son dos raidi par la nuit, tout en examinant le ciel pour s'assurer que la journée serait propice à la moisson. C'était l'aube d'une des journées les plus décisives de l'année. La survie de la famille dépendait de la quantité de blé qui allait être moissonné. Padan le vieux leva les bras au ciel pour interrompre la danse. Il prit la parole avec une voix qui coulait de lui comme une plainte. Les ancêtres ne s'opposaient pas à cette guerre. De leur temps, ils avaient combattu sans peur pour défendre les terres qu'ils avaient été les premiers à défricher. Ils avaient combattu jusqu'à la mort quand cela avait été nécessaire. Quant à la grande mère, elle avait donné la guerre aux humains et la férocité aux animaux pour qu'ils puissent se défendre quand il en allait de leur survie. Matin du Monde est paru aux éditions du Cabardès. Chères auditrices, chers auditeurs, vous voici arrivés au terme de cette excursion en Minervois. Merci d'avoir été à l'écoute de Occitanie, terre d'extase, une émission préparée et animée par Pierre-Jean Brassac, avec la précieuse coopération technique de Shelley et les conseils de Jean-Luc Palévaudy et de Jacques Lavergne.